L de géant, L de géant, L de géant, L de géant. Bienvenue sur L de géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, L de géant reçoit le pédagogue Philippe Mérieux pour son nouvel ouvrage qui paraît aux éditions Autrement sous le titre « Grandir en humanité, libre propos sur l'école et l'éducation ». Il se présente comme un livre d'entretien avec le philosophe et essayiste Abdennour Bidar, lequel a enseigné la philosophie pendant 20 ans et fait partie des membres du Comité consultatif national d'éthique. Par un concours de circonstances, cette rencontre avec Philippe Mérieux a eu lieu le jour de la conférence de presse de rentrée du nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, chargé par le président Macron de développer ce qu'il appelle l'école du futur. Or, Philippe Mérieux et Abdennour Bidar posent justement comme question liminaire « Quel cap aujourd'hui pour l'école ?» Ils tentent d'élaborer au présent et au futur proche une réponse avec comme pierre angulaire cette expression « Grandir en humanité ». Bonjour Philippe Mérieux.
Bonjour.
Ce terme d'humanité, dans un environnement scolaire, on le rencontre plutôt au pluriel. Les humanités, ce sont aussi ces disciplines qui regroupent à l'origine l'étude des lettres et des arts, mais aussi, désormais, celle de la philosophie et des sciences humaines. Humanité au singulier, c'est un terme plus rare et assez solennel. Celui de grandir appartient plus au registre de la famille et de la psychologie. Alors que les éditions de l'Atelier et l'École des Lettres publient le second volume de Territoires vivants de la République intitulé « Parce que chaque élève compte, enseigner en quartier populaire », quel concept avez-vous souhaité forger tous les deux avec cette question de grandir en humanité ?
Je crois qu'au-delà de la coïncidence que vous avez évoquée entre la conférence de presse du ministre et notre rencontre, il y a une autre coïncidence qui me tient beaucoup à cœur, c'est précisément celle de la sortie de ce deuxième tome de Territoires vivants de la République avec le livre que nous avons rédigé avec Abdennour Bidar. Parce qu'au fond, ce que nous disons, Grandir en humanité, est remarquablement illustré par ce deuxième tome de Territoires vivants de la République. Dans l'entretien que j'ai eu avec les auteurs de ce livre, je dis que ce qui m'a frappé à l'intérieur de ce livre, c'est qu'il répond à une question que me posait un de mes vieux maîtres, Olivier Reboul, philosophe de l'éducation, quand il disait « qu'est-ce qu'on doit enseigner ? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné à nos enfants ?» Et il répondait « ce qui libère et ce qui unit ». Grandir en humanité, c'est ça, c'est enseigner ce qui libère et ce qui unit. Et c'est ce que nous trouvons dans ce livre « Parce que chaque élève compte » et ce que nous essayons de développer aussi avec Abdennour. Ce qui libère d'abord, ce qui libère de tous les fatalismes, de toutes les assignations à résidence, de toutes les formes de discrimination et d'essentialisation des personnes. Toi, tu es dyslexique, toi, tu es un gamin de banlieue. Oui, Jules est dyslexique, mais il est aussi passionné de manga et on va peut-être grâce à ça l'aider à surmonter sa dyslexie. Oui, il est issu de banlieue, mais il n'est pas assigné à reproduire les comportements de ses parents ou de son groupe. Et on va l'aider à se dépasser, à s'émanciper. On va lui poser cette question fondatrice, fondamentale, c'est qu'est-ce que tu vas faire toi avec ce qui t'a fait ? Libérer quelqu'un par l'éducation, c'est lui dire tu peux te faire toi différent de ce qui t'a fait. Tu peux oser ta différence. La vraie différence, c'est pas celle dont on hérite, c'est celle que l'on se construit. Libérer quelqu'un, c'est lui permettre de se construire. Et c'est le premier volet de l'éducation, celui qu'on voit très bien illustré dans l'ouvrage de Territoires vivants de la République. Mais il y a un deuxième volet de cette humanité, c'est pas simplement aider à ce que chacun se construise individuellement, c'est aider à ce que chacun se découvre semblable, malgré sa singularité irréductible avec tous les autres. Ce qui m'unit aux autres, c'est les œuvres, parce que nous nous retrouvons ensemble dans ces mêmes œuvres. C'est savoir, parce que chacun arrive dans la classe avec son histoire, mais qu'on va partager les mêmes savoirs, et que ce partage va nous créer du commun, et que ce commun va nous donner ensemble le sentiment de notre commune humanité. Alors oui, je crois que grandir en humanité, c'est possible, et avec Abdennour, nous faisons de cela le cap d'une école possible, d'une école du futur. C'est possible à condition que, au-delà des réformes de tuyauterie, des ajustements de ceci ou de cela, on ait toujours en tête que l'enseignement, c'est libérer et unir. C'est rendre libre et créer du commun. Il y a un vieux livre, un livre qui paraît un petit peu désuet aujourd'hui, d'un philosophe qui s'appelait Georges Gusdorf, le livre s'intitulait « Pourquoi des professeurs ?». Et dans ce livre, Gusdorf disait « Tout enseignant est assigné au double jeu, parce qu'il est dans une institution où il doit répondre à des injonctions, il doit mettre des notes, il doit faire des contrôles, préparer à des examens, organiser la situation scolaire. Mais à l'intérieur de cette structure et de cette institution, l'enjeu, le véritable enjeu, c'est aider chacun à grandir en humanité, c'est-à-dire à faire en sorte que chaque apprentissage qui s'effectue dans la classe rende chaque enfant à la fois plus libre et plus uni avec les autres.
Vous évoquiez l'idée de faire du commun. Dans ce livre, vous opposez notamment la volonté de faire du commun à une tendance forte à l'atomisation qui nous réduit à une somme d'individualité. De là, un nouvel enjeu pédagogique. Comment est-ce qu'on peut associer les enfants à la construction d'un avenir commun sans leur imposer un modèle donné d'avance?
Moi, je dirais volontiers à travers le partage des questions. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une bataille permanente entre des réponses. Peut-être qu'on pourrait se demander si les réponses ne sont pas plus des occasions de se séparer et les questions de nous réunir. La plupart des enfants se posent des questions fortes. D'où je viens, qui je suis, qu'est-ce qui se passe dans ma relation à l'autre, comment je peux par exemple l'aimer sans le manger ou être aimé sans être mangé par lui, c'est la grande question de l'ogre, c'est pas un hasard que cette question de l'ogre soit si présente dans la littérature de jeunesse. Les cultures différentes, les œuvres différentes, les appartenances différentes donnent des réponses différentes. Et créer du commun, c'est permettre aux enfants de découvrir qu'ils ont tout à fait le droit d'avoir des réponses différentes, mais qui sont profondément réunis par les mêmes questions. Et c'est là où la littérature a un rôle absolument essentiel. Parce que la littérature n'apporte pas des réponses. La littérature n'apporte pas de réponses définitives. Ce ne sont pas des traités de philosophie, les ouvrages de littérature. Ce ne sont pas non plus des traités de théologie. On n'y trouve pas des dogmes. On y trouve des interrogations sur notre humaine condition, comme disait Montaigne. Et ces interrogations, elles nous rapprochent. Et elles relient ce que chacun a de plus intime avec ce qui, d'une certaine manière, est le plus universel. Ce que chacun a de plus intime, ce sont ces questions-là, ces questions qui tournent autour de la sexualité, qui tournent autour du pouvoir, qui tournent autour des rapports au père, des rapports à la mère, etc. Des rapports au père, P-A-I-R-S aussi. La littérature va donner à ces questions-là un écho qui fait qu'on ne sera plus seul à se les poser, qu'on rencontrera d'autres gens avec qui on se les pose. Avec eux, on pourra se dire que nous partageons des choses essentielles. Nous pouvons vivre ensemble et construire ensemble. Et ce commun, dans la classe, on va réussir à le construire par l'échange, mais aussi par des dispositifs pédagogiques, bien sûr, comme le conseil, des dispositifs tels que l'ont proposé, par exemple, des gens comme Fernand Houry, la pédagogie institutionnelle. On va travailler, essayer d'organiser un débat. Mais un débat, c'est pas une conversation à bâton rompu n'importe comment. Un débat, ça se prépare. Un véritable débat, on donne le sujet à l'avance pour qu'on puisse y réfléchir. On organise le débat avec un président de séance, un secrétaire. On organise le débat de telle manière à régulièrement s'interrompre pour savoir ce qui est stabilisé et ce qui ne l'est pas. On organise le débat pour identifier ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre des opinions, et ainsi de suite. Tout ça, ça se construit dans la classe, et ça construit du commun, ça construit des individus, des sujets qui sont profondément convaincus qu'ils ont une singularité irréductible, mais que cette singularité peut permettre de construire une histoire commune. Thank you.
sait que les questions qui soulèvent des débats sont par exemple liées à la question de la laïcité. Alors à propos des valeurs de la République et de la laïcité, Abdennour Bidar met en garde contre, d'un côté, le, je cite, « prêchi-prêcha d'une pseudo-religion républicaine dont on fait réciter le dogme aux élèves », et de l'autre, je cite toujours, « l'identitarisme qui dissout la société en une myriade de particularismes antagonistes ». Ce sont des questions très clivantes. Vous, qu'en pensez-vous et où se situe ou se situerait la ligne de crête ?
La ligne de crête, c'est la possibilité pour chacun d'exprimer sa singularité sans y être enfermé. Et en lui permettant de découvrir l'altérité, de découvrir ce en quoi l'autre est à la fois son semblable, son frère, qui partage un certain nombre de choses, mais aussi quelqu'un qui a une autre histoire et qui peut avoir d'autres convictions. Alors, c'est compliqué tout ça, c'est d'autant plus compliqué que Abdennour a raison. On a tendance à faire des valeurs de la République une espèce d'affichage, un discours, un charabia, dit-il. On a tendance à considérer que l'injonction suffit, alors que l'enjeu majeur de l'école aujourd'hui, c'est de les faire vivre, ces valeurs de la République. Il suffit pas de dire liberté, égalité, fraternité, laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour les enfants ? Découvrons ensemble que la vraie liberté, elle naît parfois de la contrainte. Hein, on le sait bien en littérature, regardons tout le mouvement de l'Oulipo qui l'a si bien montré. L'égalité, eh bien l'égalité, l'enfant il y est très sensible. Et il voit bien que cette égalité, elle n'est pas toujours à l'ordre du jour dans l'institution scolaire. Quant à la fraternité, elle est malheureusement trop souvent passée à la trappe. Moi, je suis de ceux qui sont un peu choqués par le fait que l'entraide scolaire est beaucoup trop marginale, le fait que des élèves de niveaux différents, de classes différentes puissent s'aider est quelque chose qui devrait aller de soi, qui devrait être systématisé. On sait que c'est extrêmement efficace, extrêmement utile, et que non seulement ceux qui sont aidés progressent, mais ceux qui aident progressent infiniment aussi grâce aux interpellations de ceux qui n'ont pas compris et qu'ils vont aider. Toutes ces questions des interactions entre pairs, de l'entraide, sont des questions fondamentales. Et je pense qu'un des problèmes de notre école, c'est qu'on croit trop à la force des injonctions purement verbales qui nous exonèrent de passer à l'acte. On prêche la fraternité, mais on ne la met pas en œuvre. Et je pense que l'école est appelée aujourd'hui à montrer que la fraternité est possible, qu'elle est possible dans l'école, qu'elle est possible au quotidien, et que chacun y trouvera son compte, et que tous, qui plus est, y seront plus heureux.
Vous vous présentez comme des héritiers des modernes, mais la modernité, d'un autre côté, serait révolue. Du moins, c'est ce que vous suggérez dans cet ouvrage. Est-ce qu'on pourrait parler de postmodernisme à l'école ? Qu'est-ce que ce serait le postmodernisme ?
Les définitions de la modernité sont multiples et nombreuses. Certains la font commencer tout de suite après le Moyen-Âge. Moi, je dirais, si on veut être caricatural, schématique, on pourrait reprendre la définition de Léo Strauss disant que la modernité, c'est la rationalité, que les rapports humains soient régis par la rationalité. La rationalité, l'efficacité. Aujourd'hui, le problème, c'est que cette rationalité et cette efficacité sont devenues totalement instrumentales. De là naît une forme de perte de sens. On le voit bien à travers un certain nombre de prescriptions méthodologiques données aux enseignants, où au fond, le sens est relativement second, et où l'obéissance à des protocoles standardisés devient quasiment la norme. Je pense que si c'est ça la modernité, il faut effectivement la dépasser. Il faut réintroduire la question de la valeur, la question des valeurs. Moi, je suis assez choqué par ce paradigme qui semble dominant aujourd'hui de l'école efficace, qui discrédite et délégitime tous les discours philosophiques, pédagogiques, en disant « c'est de l'idéologie ». Mais l'école efficace, c'est de l'idéologie. Encore plus, parce que c'est une idéologie qui s'ignore comme idéologie. L'efficacité ne peut être mesurée qu'à travers des valeurs. On peut être efficace dans la promotion de l'esprit critique, dans la promotion de la sensibilité, dans la promotion de l'obéissance et de la reproduction de modèles. On peut être efficace dans des tas de choses. Il nous faut sortir de ce culte de l'efficacité pour retrouver des valeurs fondatrices et réajuster nos pratiques à ces valeurs fondatrices. Et c'est peut-être ça. Alors, serait-ce la post-modernité ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas du tout la prétention de dépasser Henri Mechonik ou d'autres. Mais Je dirais bien volontiers que si la modernité, c'est la rationalité instrumentale et l'assujettissement des humains à cette rationalité instrumentale, ce que nous proposons, ce que nous souhaitons, c'est que la question des valeurs, la question de ce qui libère et de ce qui unit, prennent le pas sur la rationalité instrumentale. Moi, je suis inquiet du développement, alors encore très embryonnaire, de ce qu'on appelle le learning analytique. Je suis inquiet, cette idée qu'on trouve chez des auteurs comme Laurent Alexandre, par exemple, que la pédagogie actuelle serait qu'un bricolage et qu'on pourrait, à partir de logiciels d'intelligence artificielle, identifier les structures cérébrales de chaque élève et ses méthodes de travail, lui proposer d'une manière quasiment industrielle des logiciels entièrement adaptés. Et tout ça ferait que, au fond, on pourrait se passer des enseignants et de la rencontre avec la culture vivante, la culture incarnée. Moi, je suis inquiet de cela. Ne soyons pas trop dans la panique morale. On n'est pas devant, à court terme, la disparition des professeurs et leur remplacement par des machines. Mais je pense qu'il y a une songerie collective au nom de laquelle, au fond, on pourrait à terme se satisfaire d'une institution qui standardise des protocoles et les diffuse d'une manière massive à travers le numérique, en se passant de la médiation humaine. Je pense que si c'est ça la modernité, il faut d'urgence passer à la post-modernité, parce que c'est vraiment très inquiétant.
Celle que vous appelez de vos voeux. Et alors, quelle différence indiquer entre l'autonomie que défend le président Macron, plutôt pour les établissements, et l'autonomie que soutient Abdennour Bidar, du coup plutôt pour les élèves?
Oui, pour les élèves et aussi pour les équipes, puisque nous disons dans l'ouvrage que nous voulons libérer l'initiative des équipes, ce qui est d'une certaine manière le discours présidentiel. Mais en quoi nous différons? Il est important de préciser les choses. L'autonomie des équipes s'inscrit dans l'affirmation d'une véritable liberté pédagogique. Cette liberté pédagogique, elle s'inscrit à l'intérieur d'un système scolaire avec un cahier des charges national qui s'impose à tous. C'est parce qu'il y a ce que nous appelons un jacobinisme des finalités qu'il peut y avoir une initiative dans les modalités. On ne peut pas, dans une république comme la nôtre, avoir des initiatives sur les finalités. Elles ne peuvent porter que sur les modalités. Sinon, c'est l'explosion. Sinon, c'est l'explosion, c'est l'atomisation du système. C'est la raison pour laquelle, moi, je dirais bien volontiers que ce qui est en train de se passer pourrait être inquiétant si on basculait de ce qui avait été énoncé en 1981 par Alain Savary au moment de la création de l'éducation prioritaire, vous savez, donner plus et mieux à ceux qui ont moins, qui est une redistribution des moyens en fonction des besoins, si on basculait de cela vers une redistribution des moyens en fonction des projets, ce qui semble quand même être l'horizon. Qui va faire de beaux projets? Les beaux établissements, les bons établissements, ceux où il y a des professeurs chevronnés qui ont envie de faire, et les autres, là où on ne nomme que des contractuels et des vacataires qui vont rester qu'un an ou deux, qui ne vont pas avoir la possibilité de faire de beaux projets, ils vont être en rade. Il faut être très attentif. La République a un devoir d'équité à l'égard de chaque enfant, de chaque établissement. Et ce devoir d'équité, c'est effectivement de sortir de la logique que, pour ma part, je trouve mortifère de l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est un concept où on met, au fond, sur la même ligne de départ, des gens super entraînés avec d'autres qui n'ont aucune idée des règles du jeu. On tire un coup de revolver et puis on dit, voilà, que le meilleur gagne. Non. La République, c'est pas l'égalité des chances. La République, c'est l'égalité des droits, du droit d'accès de tous et de toutes à l'éducation. C'est donner plus et mieux à ceux qui ont moins. Et là, on en est loin. On en est loin puisque aujourd'hui, on sait qu'un élève de classe préparatoire aux grandes écoles coûte bien plus cher qu'un élève de réseau d'éducation prioritaire, et même qu'un élève d'un collège de centre-ville coûte bien plus cher qu'un élève de collège de banlieue en éducation prioritaire, puisque en centre-ville, il va avoir des professeurs agrégés ou capétiens. Ailleurs, il aura pour l'essentiel des vacataires et des contractuels, il aura en centre-ville plus d'options, etc. Donc nous continuons à donner plus à ceux qui ont déjà plus. Et par rapport à ça, je pense que Il ne faut pas confondre autonomie avec libéralisation systématique. Il faut que l'autonomie s'accompagne d'un effort de l'État pour que ceux qui sont le plus en difficulté puissent bénéficier des initiatives les plus originales, les plus ambitieuses culturellement. Moi, je suis passionné par le fait que, ici ou là, dans tel réseau d'éducation prioritaire, des élèves créent un opéra, travaillent avec des ouvrages littéraires ambitieux, rencontrent des intellectuels et des scientifiques, tout ce qu'on voit dans le livre « Parce que chaque élève compte ». Ça, c'est authentiquement républicain. Et je voudrais qu'on aide plus tous ceux qui sont dans des situations difficiles à prendre des initiatives plutôt que de ne financer que des initiatives prises par ceux qui sont plutôt privilégiés.
Les élèves, on leur rabâche beaucoup la question du retour aux fondamentaux et la question du socle commun. En quoi ce retour aux fondamentaux vous paraît-il un vaste malentendu ? Je crois que c'est l'expression que vous utilisez dans le livre.
Oui, alors c'est un malentendu d'abord historique. Si on relit Ferdinand Buisson, Jules Ferry, on s'aperçoit que l'un et l'autre disent clairement que ce qui caractérise l'école républicaine, ce n'est pas le retour aux fondamentaux. Ce n'est pas le lire-écrire-compter. Le lire-écrire-compter, dit Ferdinand Buisson, dit Jules Ferry, c'était Guizot. C'était l'école qui consent à donner quelques savoir-faire techniques au peuple. Jules Ferry et Ferdinand Buisson disent très bien, ce qui caractérise l'école républicaine authentique, c'est qu'elle vise la formation de l'individu complet et tout entier et qu'elle cherche à le mobiliser pour la culture. Moi, je suis évidemment pour que les élèves apprennent à lire et à écrire. Je pense même, et je le développe dans le livre, que l'entrée dans l'écrit est une des spécificités majeures de l'école et qu'elle est beaucoup trop sous-estimée, qu'on écrit bien insuffisamment et qu'il n'y a pas assez d'écriture longue, en particulier dans les écoles. Donc je suis bien évidemment favorable à cela, mais je pense que précisément l'insistance quasiment névrotique sur les fondamentaux est contre-productive par rapport à cela. Parce que écrire, c'est pas simplement reproduire des procédures, c'est pas simplement maîtriser la graphie, puis ensuite le lexique, puis la syntaxe, le vocabulaire, etc. Écrire, c'est quoi ? C'est soulager sa mémoire, c'est ce que estime Goudy quand il nous rappelle d'où viennent les premiers écrits. Écrire, c'est pouvoir communiquer avec ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne sont pas là, et in fine, écrire, c'est une manière de lutter contre la fugacité du temps et contre la mort. Et si on ne montre pas aux élèves, si on ne fait pas vivre aux élèves ce qui est, au fond, le sens de l'écrit dans l'histoire des humains, si on réduit l'écrit à des savoir-faire techniques qu'il faut inculquer et que l'on va évaluer d'une manière strictement quantitative, alors on rate ce qui fait que l'écrit est humain, à proprement parler. Les robots peuvent écrire au sens où ils peuvent restituer des protocoles standardisés et faire des phrases correctes. Ils peuvent corriger l'orthographe, etc. Les robots savent faire tout ça. Les robots n'ont pas envie, eux, de lutter contre la fugacité du temps et travailler dans un rapport à l'écrit qui leur permette de stabiliser des idées et de les approfondir à la fois. L'aspect proprement humain de l'écrit, il n'est pas dans la mécanique de l'écrit. Il suppose d'acquérir cette mécanique, bien sûr. Mais pour acquérir cette mécanique, il faut accéder en même temps, et pas après, au sens. Moi, je suis très frappé par l'idéologie des préalables, qui consiste à dire qu'il faut d'abord acquérir la technique, et puis après, on accédera au sens. Moi, je pense qu'on acquiert bien la technique que parce qu'elle est habitée par du sens. C'est ça qui fait qu'on accède finalement aux fondamentaux. Oui, moi je suis, et je le dis d'une manière très insistante, pour que l'école soit une entrée dans la parole exigeante. On ne dit pas un mot pour un autre. L'école est un lieu où on apprend à parler rigoureusement. L'école est un lieu où on entre dans un écrit qui est un écrit précis, exigeant. Et l'école est un lieu où on rentre dans les œuvres. J'estime que ce sont ces trois entrées-là qui sont dominantes. C'est l'entrée dans la parole, l'entrée dans l'écrit et l'entrée dans les œuvres. Et c'est ça pour moi les fondamentaux. La technique, elle est incluse là-dedans, mais elle n'est pas première. Elle est en même temps que le sens. C'est pourquoi je pense qu'il y a un malentendu dans la manière dont on communique sur les fondamentaux. Parce qu'on les réduit trop souvent à de la technique, et on oublie que cette technique, on ne peut se l'approprier que si on est déjà propriétaire du sens, et que le sens, tout le monde ne l'a pas quand on est à l'école.
Il y a un autre sujet sur lequel vous insistez beaucoup, c'est la question de l'éducation au développement durable. Vous vous dites qu'il est indispensable, par exemple, que les élèves apprennent les éco-gestes et se mobilisent, notamment pour nettoyer le lit d'une rivière, mais aussi qu'ils puissent faire l'expérience de ce que vous appelez un renversement radical de leur rapport au monde. Concrètement, on peut se demander, en fait, dans quel cadre, de quelle classe, peut-être quel programme, cela peut-il se faire, cela peut-il s'apprendre ?
Partout. Je dirais volontiers partout, parce qu'au fond, c'est quoi le problème du changement climatique, de l'écologie au sens large ? C'est de savoir si nos enfants trouveront leur plaisir dans la consommation effrénée des quelques miettes qui nous restera de ce qui est épuisable, ou s'ils réussiront à trouver du plaisir dans le partage de l'inépuisable, c'est-à-dire dans le partage de la culture, dans le partage des lettres, dans le partage de ce qui les rassemble. Et c'est une expérience qui se fait à chaque instant. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui, à travers la publicité en particulier, donne le sentiment que le plaisir, c'est la consommation effrénée. Que le plaisir, c'est la possession, et que cette possession consiste à grappiller ici ou là des biens matériels. Exprimer à l'école et faire vivre à l'école le fait qu'on peut trouver du plaisir, un plaisir authentique, dans un partage, alors je vais dire intellectuel, Abdennour dirait plutôt spirituel, mais bon, un partage autour d'un texte, autour d'une pièce de théâtre, autour d'une découverte scientifique, autour d'un projet qu'on fait dans la nature, peu importe, mais qu'on peut trouver un plaisir authentique là et qui ne justifie pas qu'on aille courir après le dernier jeu électronique à la mode, c'est changer le rapport au monde. C'est changer le rapport au monde.
Vous évoquez ce que Jacques Lévin appelait la construction d'un espace hors menace. Or, la classe est le lieu de rapports de force et de pression terribles, de censure et d'autocensure aussi. Comment préserver un espace hors menace qui laisse chacun s'exprimer ?
Je dirais qu'il faut construire un espace hors menace. L'espace hors menace est d'abord un espace où l'enfant, l'élève, ne se sent pas menacé par une évaluation qui lui tomberait dessus et qui lui collerait à la peau. Si je dis à une classe « exprimez-vous », bien évidemment, seuls ceux qui savent s'exprimer vont s'exprimer. Pour que les autres osent prendre la parole et le courage de parler, il faut qu'ils sachent que s'ils bafouillent, s'ils se trompent, ils ne seront ni sanctionnés, ni humiliés. Mais c'est pas suffisant non plus, parce que comme vous le dites, bien sûr, il y a des pressions dans la classe, de l'emprise d'un certain nombre de leaders qui peuvent, par un regard, paralyser les autres. Il faut que le maître soit attentif à ça, bien sûr. La pression des stéréotypes, qui est considérable, les stéréotypes entrent massivement dans la classe. Les stéréotypes de genre, mais aussi les stéréotypes liés aux vêtements, les stéréotypes liés au fait que lui bafouille et que lui ne bafouille pas, lui c'est un bon élève et lui c'est un cancre. Permettre l'expression, c'est suspendre les stéréotypes. C'est une attitude qui consiste à, j'allais dire, à antécéder mais sans anticiper sur ce que l'élève va dire. Alors parfois, ce qui rend cela plus facile, c'est le fait de mettre en place des lieux, des moments, où on verbalise ces questions de l'expression collective. On peut dire les choses, surtout si ces moments d'expression collective sont précédés par des moments d'expression écrite. Je crois assez paradoxalement que l'expression écrite peut aider à l'expression orale. Il y a des enfants qui n'oseront pas s'exprimer par oral, qui s'exprimeront par écrit, C'est pour ça que la technique que j'ai beaucoup utilisée moi-même quand j'étais instituteur de la boîte aux lettres, où les élèves peuvent écrire ce qui leur tient à cœur, ce qu'ils ont envie de dire, on lit tout ça tous ensemble, est une technique que je trouve intéressante et peut-être à explorer. Peut-être il faudrait dans ce cadre-là, faudrait réfléchir sur l'usage du téléphone portable, par exemple. On sait qu'il est interdit en principe de l'utiliser en classe, mais il y a peut-être des usages qui, par le biais des textos ou d'un certain nombre de réseaux sociaux, permettraient des expressions et le permettraient alors que l'expression orale peut être bloquée par ailleurs.
On parle beaucoup de bien-être à l'école. J'aurais bien aimé entendre parler d'un espace hors menace.
L'espace hors menace, ça renvoie à des dispositifs pédagogiques précis. Qu'est-ce qu'on fait pour que personne ne se sente menacé, pour que personne ne se vive comme humilié, pour que personne n'ait l'impression qu'il est censuré, et pour que toute parole soit accueillie, ce qui ne veut pas dire approuvée. L'enfant a droit à s'exprimer, mais il a droit aussi à être contredit.
Merci beaucoup Philippe Mérieux. À bientôt sur L2 Géant peut-être.
Merci beaucoup à vous, merci pour tout le travail que vous faites autour de la littérature et des œuvres. Merci d'avoir édité aussi ce beau livre, Le territoire vivant de la République.
Merci encore. L2 Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chagne. À bientôt pour un prochain épisode sur L2 Géant.